Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir à tous. En ces temps où nos libertés doivent de nouveau être restreintes, je suis ravie de vous retrouver sur cette libre antenne, dans cet espace qui vous permet de vous exprimer chaque soir comme vous le souhaitez. C'est donc ce soir que commence le couvre-feu. Quand on connaît l'importance des mots pour notre esprit, on peut se demander s'il était vraiment opportun de choisir cette formule-là, qui rappelle à certains des temps bien plus difficiles encore. Je vous le dis souvent, vous le savez, les mots ont un sens. Tous ceux que nous avons entendus depuis que nous sommes petits et qui nous ont façonnés. Tous ceux que nous continuons à nous répéter à longueur de temps et qui, selon leur sens, nous portent ou nous détruisent. La bonne nouvelle, c'est que si on ne peut pas empêcher les autres de prononcer certains mots acides, on peut toujours prendre le recul nécessaire pour ne plus se laisser toucher par ces mots-là. Quant à nos mots à nous, ce que nous offrons aux autres et surtout ce que nous offrons à nous-mêmes, c'est à nous de bien les choisir, sinon qui ? Allez, je vous laisse choisir vos mots ce soir pour me parler de vous, de vos histoires, de votre vie. Appelez-moi au 3921, Estelle et Maxime sont prêts à vous accueillir au Standard Europe 1. Pour participer à l'émission par SMS, vous faites le 73921, vous commencez bien par le mot nuit, suivi de votre message. Enfin, je vous rappelle notre adresse mail, libreantenne@europe1.fr. À la réalisation ce soir, c'est Benoît, que je salue de loin. Puisque je ne suis pas en studio, je vous accueille encore depuis mon salon, confiné pour cause de Covid. Et à ce propos, j'aimerais vous dire un grand, grand merci pour tous les messages de bon rétablissement que vous m'avez fait parvenir depuis hier soir. Ça me touche beaucoup et ça m'aide à remettre de la lumière là où ce virus avait tenté de mettre de l'ombre.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Et on commence par ma question pour mieux vous connaître ce soir. Ma question est, puisque j'ai commencé cette émission en parlant de mots, ma question est donc la suivante. Qu'est-ce que vous aimez qu'on dise de vous ? Quels sont les mots qui vous font du bien, que vous aimez entendre ? Répondez-moi si ça vous tente, par mail ou par SMS.
Laissez votre message à Sabine Marin au 739-21. 75 centimes, plus coût du SMS.
Et mon premier appel ce soir, c'est l'appel d'Anne-Marie. Bonsoir à vous, Anne-Marie.
Bonsoir, Sabine. Bon courage et bon rétablissement aussi.
Merci, c'est gentil. Ça va de mieux en mieux, chaque jour un peu mieux.
Tant mieux, tant mieux. Bon, ben, je sais plus. Moi, en fait, je fais une très grosse dépression. Depuis, je suis passée à l'antenne assez souvent. Mais là, j'avais des médicaments depuis 10 ans. Et j'ai fait un très gros problème respiratoire. J'étais en Bretagne, j'ai déjà des amis. J'ai dû être évacuée à Vannes.
En lien avec le Covid ou pas du tout ?
Non. Bah, ils me l'ont fait là-bas le test à l'hôpital. Et négatif, heureusement, parce que c'était. J'ai encore failli passer cette fois-ci. Mmh. Et donc. On va tout supprimer mes médicaments.
Ah. Alors, pour quelle raison ? Quel est le lien avec ce problème que vous avez eu ? Qu'est-ce qui s'est passé après, concrètement, à l'hôpital ?
Parce que, à l'hôpital, j'étais déjà sous oxygène. Oui. Mais le problème, c'est que j'ai un masque, une VNI, ça veut dire un appareil que je devrais porter la nuit. Mais ça me fait faire beaucoup de cauchemars et là, d'abord l'appareil, il y a beaucoup de fuites, donc là-bas on a fait des tests et tout, mais on sait pas trop, enfin c'est-à-dire que la société qui venait pour me donner de l'oxygène dans cette famille a vu mon taux d'oxygène très bas, à 50 au lieu de 90. Donc ils m'ont tout de suite, Ils m'ont tout de suite hospitalisé. Mmh. Fait venir le SAMU, les pompiers, parce que ben.
Voilà, oui, par sécurité, bien sûr.
Ouais. Et après Hermel, et ben, ils n'avaient pas. Enfin, ils pouvaient pas me garder en réa. Donc ils m'ont évacué à Vannes, en réa.
D'accord. Et après, qu'est-ce qui s'est passé alors?
Ben, il s'est passé que me retrouver comme ça sans médicaments ou presque, le pneumologue, il a dit il pouvait pas. Eux, c'était les poumons, mais pas la dépression.
C'est-à-dire, il y avait une contre-indication, c'est ça que si je comprends bien, entre les antidépresseurs et le traitement.
Oui. Oui.
Ok.
Et trois minutes maintenant. Excusez-moi. Ouais. Pour que je puisse avoir des antidépresseurs. Alors parce qu'en fait j'ai une psychiatre qui m'avait redonné un traitement. Alors est-ce que c'était pas, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais toujours est-il, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ben j'ai que du mirlazapine. Enfin moi je sais pas. Bref, j'ai que ça et c'est tout. Et je dors pas la nuit. C'est plus suffisant. Et je sais pas quoi faire.
Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qui vous a demandé d'arrêter le traitement antidépresseur et
c'est le pneumologue.
D'accord, oui, sur le moment, mais aujourd'hui, vous voyez un psy ou une psy?
Oui.
Et qu'est-ce qu'elle vous dit, elle, pour on peut pas arrêter comme ça, quand on sait à quel point c'est compliqué et que cette dépression elle a bien ancrée. Qu'est-ce qu'elle vous propose?
Plus d'anxiolytiques, et moi j'ai beaucoup d'angoisse parce que on en avait déjà parlé de ça, était violée par un collègue de travail, et le procès est en route. Et bon, mais j'ai beaucoup d'angoisse et j'avais du tertier, enfin un médicament, mais je peux plus le prendre.
Alors attendez que je comprenne bien. Vous me dites plus d'anxiolytiques, mais antidépresseurs, si, alors vous les reprenez.
Oui, elle me donne un autre antidépresseur. Ouais.
D'accord, donc ça c'est sous contrôle.
Oui.
Ce qui vous pose problème, là, si je comprends mieux, c'est l'interdiction de prendre des anxiolytiques, des calmants.
Oui.
Est-ce que c'est temporaire ou est-ce qu'elle vous explique que vous ne pourrez plus prendre d'anxiolytiques?
Je sais pas trop.
Pourquoi?
Ben là, on va refaire le point, mais.
Oui, mais ça bon. Me paraît. Je suis souvent surprise d'entendre que des gens ne posent pas les questions essentielles à leur médecin. Ça me paraît important si c'est difficile pour vous de vivre sans, de savoir si c'est quelque chose qui va être temporaire, auquel cas on le gère différemment, ou une nouvelle manière d'être, auquel cas là aussi il faudra trouver d'autres systèmes. Donc vous ne savez pas du tout si c'est une histoire de quelques mois ou si c'est à vie.
Non, je ne sais pas.
Non.
Bon. Elle avait pas. Enfin, elle va venir à mon domicile parce que j'ai beaucoup de. Enfin, pour me déplacer, elle va venir à mon domicile. Elle vient me voir la semaine prochaine. Mais en attendant, je l'ai eu au téléphone. Mais elle m'a dit de faire comme ça, mais moi je dors plus. Ouais.
Mais anxiolytique, c'est ça qui vous a dormi ou il y avait des somnifères en plus?
Non, il y avait eu un somnifère, mais je faisais des cauchemars, donc on l'avait arrêté. Non, c'était beaucoup de tertions qui me faisaient dormir.
Ok. Et qu'est-ce que vous essayez pour compenser ça? Est-ce que vous avez fait des tentatives?
Bon, on m'a donné des plantes, du oligosommeil, des trucs comme ça, mais ça me fait pas effet. Ou alors, faut que j'en prenne trois.
Et alors? C'est embêtant d'en prendre trois?
Non. 3-4, mais je dors peut-être 2-3 heures par nuit, c'est tout.
Vous avez essayé ces choses-là pendant combien de temps?
Ça fait plus de 15 jours maintenant. J'ai plus d'anxiolytiques.
Oui, mais est-ce que vous avez essayé autre chose sur un temps suffisant? Parce que trop souvent, les gens me disent « Oui, j'ai essayé 3 jours, ça n'a pas marché. » Ben oui, mais il faut du temps pour que les choses s'installent en médecine
douce.
Différente. Oui, en médecine douce, voilà, oui, merci.
Ben, j'essaye, puis ben... C'est-à-dire qu'après, faut pouvoir trouver les plaquettes. Enfin bon, oui, j'essaie jusqu'à temps qu'elles viennent et puis qu'on voit...
Ce que j'essaie de vous faire comprendre, Anne-Marie, c'est que très souvent, il y a plein de solutions parallèles. Mais on exige une réponse immédiate, et si ça ne marche pas, on dit de toute façon, ça ne marche pas. Ce qui n'est pas vrai. Il faut laisser le temps au temps. Avec tout ce qui est médecine douce, ce n'est pas en 3 jours. C'est plutôt en 3 semaines, 1 mois que les choses se mettent en place. Que ce soit la méditation, que ce soit l'acupuncture, que ce soit les plantes. Toutes ces choses-là, ça se tente quand on a des angoisses, par exemple, mais on se laisse le temps aussi. La grosse erreur qu'on commet tous, c'est de vouloir un résultat immédiat, et si on ne l'a pas, de dire « non, mais ça ne marche pas », et on se remet en boule. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
Non, mais je suis d'accord. Mais j'en ai pris là-bas à l'hôpital, des oligosommeils, enfin, ce que j'avais, ce qu'on pouvait me trouver en pharmacie. Mais c'est sûr que là-bas, je dormais pas. Puis je continue à la maison, mais de toute façon, je les prends, je les ai. Mais ça me fait pas plus.
Mais si ça fonctionne pas, il y en a plein d'autres.
Hein. Ben oui.
Les tisanes fonctionnent très bien aussi. Est-ce que vous avez essayé aussi d'écouter des séances d'hypnose pour vous endormir? Il y en a beaucoup qui sont sur Internet, qui sont accessibles gratuitement et qui apaisent. Ça peut vous accompagner aussi dans un état plus serein le soir.
Oui, mais moi, j'ai pas de... Je peux pas aller comme ça sur Internet.
Ah.
Enfin, bon, je suis bien embêté.
Oui, je comprends, mais il faut explorer toutes les pistes possibles et je suis sûre qu'il y en a. Vous savez, c'est pas parce qu'on n'a pas la solution qu'elle n'existe pas. C'est juste qu'on ne l'a pas encore trouvée.
Oui, mais moi, de ne pas dormir, ça me rend invivable. Après, le jour, c'est plus possible.
Il me semble que je vous avais déjà posé la question, mais est-ce que vous avez tenté l'acupuncture? Ça marche très bien pour les problèmes de stress et de sommeil.
Eh bien, je vais tenter.
Je cherche le terme, la réflexologie plantaire fonctionne très bien aussi pour libérer tous ces nœuds et dormir vraiment profondément.
Ben oui, je vais tenter ça parce que...
Une fois de plus, quand on ne peut plus prendre un chemin, bon voilà, c'est comme ça pour l'instant, on ne sait pas si ce chemin-là, s'il est définitivement fermé ou pas, mais quand on ne peut plus prendre celui-là, on en trouve d'autres. Et il me semble qu'il y en a des tas d'autres, justement, en médecine parallèle, en médecine douce, comme ça. Surtout pour, évidemment, ces problèmes qui sont...
Quand on peut aller sur Internet et tout, moi, je peux pas... Il faut que je trouve des gens, des amis, qui puissent me dire, bah voilà, il y a telle chose qui existe.
Vous n'avez pas d'ordi, c'est ça, d'ordinateur?
Pour l'instant, non, on est en train d'essayer de nous le mettre en braille, puis enfin en braille il est déjà, mais nous le configurer.
D'accord. Anne-Marie, je dois marquer une courte pause. Si vous le permettez, on reprend notre conversation dans une poignée de secondes.
D'accord.
Anne-Marie. Bon, j'étais en train de me dire que là, juste avant la coupure pub, on parlait de la conséquence, c'est-à-dire ce stress et ce problème de sommeil. Mais la cause, vous l'avez mentionné tout à l'heure rapidement, c'est ce procès. Ça en est où, ça?
Ben, c'en est que... il y a beaucoup de... Lui, il doit être convoqué. Donc, il faut attendre. Il faut encore attendre. Moi, je l'ai aidé. J'ai dit ce que j'avais à dire. On en avait parlé de ça déjà. J'ai dit ce que j'avais à dire et voilà. Maintenant on attend.
Mais c'est important parce que je pense qu'une grande partie de vos angoisses est liée à, ça, à cette histoire-là.
Oui.
Est-ce que vous en parlez avec votre psy ?
Oui. Et c'est lui qui me dit de prendre des oligosommeils et tout, mais je les prends, j'en prends, même quand je me réveille, j'en reprends, j'ai lu et tout. Il m'a même trouvé un truc, mais il passe pas le produit. RJ calme. Il passe pas, non.
Ça veut dire quoi, ils peuvent pas ?
Non, pas ils peuvent pas. J'arrive pas à le... Je le garde pas... J'arrive pas à l'avaler.
Ah, d'accord. Vous savez qu'il existe aussi des formes qu'on appelle des gummies. C'est comme des petits bonbons un peu mous qu'on suce le soir et qui aident à s'endormir et qui fonctionnent très bien aussi.
Ah bon, je savais pas. Ah,
je peux pas donner de marque à l'antenne, mais ça fonctionne très très bien. Justement aussi pour les gens qui ont du mal à avaler des comprimés. C'est à base de mélatonine qui aide à récupérer le sommeil. Et puis, il y a plusieurs plantes aussi dedans qui sont très bien. Vous avez essayé la mélatonine ?
Oui.
Alors, c'est une question de dosage. Là, je parle en connaissance de cause. Moi, j'en ai essayé plein de dosages. Et tant qu'on n'a pas trouvé le bon, ça ne fonctionne pas. Mais le jour où on l'a trouvé, c'est vraiment chouette. Hein.
Oui.
Ça aide beaucoup aussi.
Non, moi, je veux bien... Mais si vous voulez, l'arrêt des médicaments était trop brutal. Enfin, l'arrêt des médicaments, c'était trop brutal.
Oui. Je comprends bien que c'était une urgence médicale, mais c'est vrai que c'est difficile, parce qu'on dit toujours que ces médicaments-là, il ne faut pas les arrêter brutalement, parce que le contre-coup est méchant et sévère. Quoi.
Alors, je fais de l'asthme, alors c'est sûr que...
Oui, il y avait urgence, là, d'accord.
Ah oui. Donc, j'ai des idées noires qui reviennent, que je veux mourir, que j'ai envie de que la vie ne m'intéresse pas. Pourtant j'ai un compagnon, mais des fois je me dis oh, on n'a pas d'enfant, on n'a pas de bon ben si je dois mourir, c'est comme ça. Ça sera comme ça. Mais c'est pour ça que la psychiatre la semaine prochaine elle vient me voir et qu'on va faire le point là-dessus.
Non, c'est bien, c'est important, ça.
Ce traitement, je l'avais depuis 10 ans, donc c'est vrai que...
C'était un peu une béquille, hein, j'ai l'impression.
Ah oui. Mmh. Oui, mais moi, ça m'aidait à être bien... Enfin, être... Vous savez, j'ai pas non plus une famille terrible. Hein. Et ben, mes parents, ça fait plus de 3 ans que je les ai pas vus. J'ai qu'une petite sœur qui est dans le voyage, que je vois très peu, parce que... Elle a des soucis aussi, mais bon, j'ai pas une famille extraordinaire non plus. Enfin bon.
Vous avez un compagnon quand même, c'est déjà séparé,
ouais.
Ça.
Oui. Oh, parce qu'il n'était pas là, j'y serais plus.
Et si, au lieu de vous concentrer sur ce qui n'irait pas, si, etc., etc., vous vous concentriez sur ce qui peut aller avec ce que vous avez déjà? C'est important de savoir se dire aussi, ok, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais il y a des choses qui vont dans ma vie. J'ai réussi des choses, j'en suis là, j'ai quelqu'un, je ne suis pas seule. Je suis encore debout.
Ah bah c'est clair que depuis 2016, en 2016, c'est pareil, des compensations respiratoires. Ça a commencé en 2000. J'en ai fait 3, une à Boulogne, à Boisparé. Une à Pompidou et une à en Bretagne.
Et d'où ça vient ces problèmes de poumons ? Vous avez beaucoup fumé ?
Non. Non, j'ai jamais fumé. Non, mais déjà je suis un peu en surpoids déjà. Et puis mais beaucoup moins maintenant, ça vient que j'ai aussi beaucoup de gaz carbonique. Parce que je mets pas assez l'appareil pour ventiler la nuit.
Et est-ce qu'il y a moyen de le changer cet appareil ? Parce que je sais que quand ça ne convient pas, il y a d'autres systèmes qui peuvent être mis en place aussi.
Ah ben, je ne sais pas. Moi, c'est bon, ça fait Sabine, c'est le masque, je ne supporte pas.
Oui, j'entends bien, mais ça me paraît quand même très très dommage quand on a une solution, en tout cas quelque chose qui peut aider, de ne pas le faire. Donc si ce système-là, vous ne le supportez pas, il faut leur demander s'il n'y a pas autre chose.
Ben déjà, je dois être réhospitalisée à la clinique qui s'occupe de ça, mais à cause du Covid pour l'instant. Tout est retardé, tout est annulé.
Ouais. Demandez-leur à ce moment-là, expliquez-leur, parce que j'ai entendu plein d'histoires comme ça de gens qui ont du mal avec un certain modèle et avec qui ça fonctionne mieux avec d'autres. Donc n'hésitez surtout pas à leur en parler de ça.
Mais ils le savent, hein, ils le voient bien. Ils le voient bien dans les gaz du sang ou même... Là-bas, Van, ils faisaient des pauses parce que... Il faisait des pauses. On le mettait un peu, on l'enlevait, on le mettait un peu. Il faisait des pauses, bon, ça marchait pas. L'appareil fait beaucoup de fuites, donc faut revoir les pressions et tout ça, quoi.
Donc pour vous, visiblement, c'est pas ce qu'il faut. Hein, ça vous convient pas du tout.
Non.
Il faut vraiment insister pour voir s'ils n'ont pas autre chose.
Oui. Qui me gêne pas pour dormir et.
Mais oui.
Ouais.
Je suis persuadée que ça existe. Il y a différents modèles, il y a différentes façons de gérer ce problème-là.
Ben oui.
Et j'ai entendu des gens comme vous dire je supportais pas tel ou tel modèle parce que à cause du bruit, à cause du poids, à cause de la force de pression sur le visage, du masque, à cause de tout ça. Et ils ont trouvé d'autres moyens après. C'est pareil, il faut trouver le bon dosage, quoi.
Oui. Et peut-être que je fasse de l'hypnose, peut-être. Pourquoi je supporte pas ce masque ?
Ah, si vous voulez travailler sur l'acceptation, oui, ça peut vous aider. Acceptez que ce masque est votre allié.
Et pas un ennemi.
Transformez-le en masque d'héroïne, en Wonder Woman, vous savez.
Oui.
Mais oui, mais ce qu'on se raconte à soi-même a beaucoup d'importance. Si vous vous couchez en vous disant « ce masque est mon ennemi, je le déteste, je vais pas le supporter », alors ça se passera mal. Si vous vous amusez avec, si vous vous racontez des histoires comme une petite fille, vous savez. Je mets mon masque d'héroïne pour être une super dormeuse.
Oui.
Autorisez-vous à mettre un peu de légèreté aussi dans ça. Ça fait du bien.
Oui, je vais essayer. Parce que ça fait des années, hein, cette histoire de masque.
Oui, donc là aussi, à un moment donné, il faut trouver des solutions plutôt que d'être un peu dans une sorte d'évitement mais qui ne vous convient pas non plus. Une fois de plus, ce n'est pas parce que ce système-là ne vous fait pas de bien qu'il n'y a rien qui vous fera du bien. Il faut juste trouver la bonne solution.
Ben oui.
Bon. Et vous avez des gens qui vont vous aider autour de vous, des thérapeutes qui sont là pour ça.
Oui. Ben oui. Bon, ben je vais continuer à prendre mes plantes.
Eh bien exactement, c'est une bonne idée. Les huiles essentielles, moi je fonctionne beaucoup en ce moment aux huiles essentielles, justement pour combattre ça, le virus aussi.
Qu'est-ce qu'il faut faut l'avaler ?
Non, pas forcément, ça peut se mettre en massage. Et même pour dormir, il y a des huiles essentielles que vous pouvez respirer simplement. Moi je suis pas, j'ai du mal à les avaler, je suis comme vous, ça passe pas. En revanche, en friction, ça marche très bien.
J'en ai, hein. J'ai du coquelicot. Bon.
Il faut demander à votre pharmacienne le bon mélange qu'il faut pour le sommeil, pour le calme par exemple, pour le stress et le sommeil. Elle vous dira les bonnes huiles à mélanger. Vous les mélangez dans une huile neutre, dans votre main, et puis vous massez les endroits du corps qui sont concernés. Ça, elle vous dira aussi où. Souvent, c'est la poitrine, c'est les tempes. C'est le bas du dos. Enfin, il y a plein d'endroits comme ça qui sont importants avec les huiles essentielles. Mais ça fonctionne très bien aussi pour le sommeil.
Oui. Moi, je vais essayer.
C'est plein de petites choses comme ça, mais il faut vraiment le faire. C'est pas juste dire je vais le faire deux jours et je vais voir ce qui se passe. Il faut vraiment se laisser le temps. Se dire, voilà, je prends un mois de test et pendant un mois, je teste des choses vraiment. Et je vois, je fais le point au bout d'un mois.
Et revoir cette histoire de masque.
Ouais. beaucoup, Anne-Marie. Il ne m'en reste pas beaucoup, mais je vous envoie un peu d'énergie.
Oui, bah oui. D'accord, merci.
Occupez-vous bien de vous, c'est important.
C'est vrai, il faudrait que... Oui. Pas vivre toujours pour les autres. Il y a un peu pour moi.
Beaucoup pour vous maintenant.
Jusqu'à maintenant, c'est beaucoup pour les autres.
Et oui, je sais.
D'accord, Sabine.
Soyez douce et bienveillante envers vous-même. Je vous embrasse, Anne-Marie.
Moi aussi. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et ma question du jour pour mieux vous connaître, c'était tout à l'heure, quels sont les mots qui vous font du bien? Quels sont les mots que vous aimez entendre? Et Brigitte nous répond, bonsoir Sabine, sans aucune hésitation, les mots que j'aime entendre sont « je vous aime ». Et oui, comme je vous comprends Brigitte. Et c'est l'heure d'accueillir maintenant Marie sur cette libre antenne. Bonsoir Marie.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue.
Merci. Excusez-moi, mais j'ai le cœur qui bat très vite.
Tout va bien, respirez bien surtout. Oui. Quelquefois c'est bête, on oublie ce truc tout simple qu'on appelle l'oxygène, oui. Vous savez. Il y en a plein autour de vous, regardez, prenez-le.
C'est vrai. Je suis très contente de pouvoir vous parler ce soir. Et puis voilà, je voulais vous dire merci déjà d'avance et puis un bon rétablissement à vous, vraiment.
C'est très gentil, merci.
Voilà. Alors, je vous appelle parce que, en fait, j'avais besoin de parler ce soir et certaines choses que j'essaie de comprendre. Après, il faut savoir que je suis actuellement en thérapie. Mmh. Donc, je vois un psychologue et on fait des séances de MDR. Donc, depuis à peu près un an. Mmh. Et donc, en fait... pas trop par où commencer, c'est un peu compliqué là dans ma tête. Je veux peut-être vous parler de moi d'abord, je ne sais pas.
Allez-y, mais oui. Dites-moi, c'est moi qui me bafouille du coup. J'allais vous dire, dites-moi les choses comme elles viennent et puis on verra après.
D'accord.
En fait, ce qui vous vient en premier, c'est que ça a besoin d'être annoncé en premier.
D'accord. J'ai quitté mon compagnon à la fin du confinement. Sachant que j'ai fréquenté cet homme dans un premier temps pendant 22 ans. On ne vivait pas ensemble. On n'a jamais rien construit. Voilà. Et ensuite, en 2017, je me souviens bien, je l'ai quitté parce que j'étais pas bien. J'étais malheureuse. Je ne sais pas si... pas comment vous dire, enfin voilà, ouais. Donc je l'ai quitté et au bout de quoi, 3 semaines, il me manquait terriblement. C'était affreux, j'ai vraiment chuté, je mangeais plus, je dormais plus, j'avais encore juste la force d'aller travailler. Et ensuite, on s'est croisés, on s'est revus et on a repris une relation. Et sauf que c'était pas du tout ce que je pensais, parce qu'en fait, au départ, il était très gentil, vraiment. Et je me suis dit, super, voilà, cette séparation nous a fait du bien. Il a compris, il a pris le temps de réfléchir. Comme moi, j'ai mis plein de choses en place. J'ai fait des séances d'hypnose. Enfin, j'ai vraiment essayé de comprendre un tas de choses. Et ça a duré quelques semaines et puis après ça a été l'enfer quoi. Il a complètement changé. Il était devenu odieux, il me critiquait tout le temps. Et alors dans un premier temps je pensais que il m'en voulait de l'avoir quitté. Donc oui. Un soir je lui ai expliqué, je lui ai dit mais tu comprends, j'étais pas heureuse, j'étais tout le temps seule et puis on n'a rien construit. J'aurais aimé qu'on vive ensemble, qu'on ait des projets, qu'on parte en vacances, qu'on soit un vrai couple. Et j'ai vraiment ouvert mon cœur, vraiment. Et donc il a écouté ce que j'avais à lui dire. Et puis voilà, et puis bon, on a continué à se voir et puis c'était un peu de pire en pire.
Il a écouté. Il a écouté, mais il a pas, je sais pas, il a pas choisi de répondre un peu, de donner quelques explications.
Non, il me regardait et puis voilà, il me laissait parler et puis moi j'ai dit tout ce que j'avais à lui dire, lui donner une explication de voilà de la séparation, parce que la seule chose qu'il a su me dire c'est que je lui dis tu sais j'ai beaucoup souffert quand on était séparés parce que je pensais quand même que tu m'appellerais ou qu'on se reverrait pour en discuter, mais enfin, il a fallu vraiment un hasard qu'on se rencontre dans un magasin pour que par la suite on puisse en discuter. Il dit, mais enfin, tu crois que moi, j'ai pas souffert? J'ai dit, ben si, j'imagine, enfin, je ne sais pas, voilà. Et puis, si c'est le cas, je te demande pardon, quoi. C'était pas ce que je voulais. Enfin, voilà. Donc, on a repris une relation et puis ça a été. Voilà. Au début, c'était bien, et puis après, c'était catastrophique, quoi. Des mensonges à répétition. Après, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup, beaucoup menti. Ça, c'est des mensonges, c'est vraiment. J'ai découvert pas mal de choses, et puis, je veux dire, même la main dans le sac, il y est, quoi. C'est vraiment.
Ah, c'est terrible, les gens comme ça, qui en plus vous prennent pour une imbécile.
Ah ouais. Ouais, il m'a vraiment prise pour une poire, et puis, enfin. Et donc. À la fin, enfin avant la fin du confinement, parce que moi j'ai confiné seule chez moi et puis lui chez lui avec sa maman, parce qu'il vit avec sa maman. Et j'ai dit stop, quoi. J'ai dit écoute, je crois qu'ils ont mieux qu'on en reste là. Il me dit ah, mais pourquoi t'as quelqu'un? J'ai dit bah non, mais je suis pas heureuse. Je sais, est-ce que tu m'aimes au moins? Il me répond pas. Il me dit mais je suis attachée à toi. Ouf. Je dis, moi je te demande si tu m'aimes.
Mauvaise réponse, même joueur au jeu.
Ouais. Et voilà. Et ensuite, donc il me dit, ah, bah, tu sais, mais moi, j'ai personne. Hein. Donc ça a été.
Mais c'est ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, quoi.
Ouais, ouais. Et donc.
Quel âge avez-vous, Marie?
J'ai 47 ans.
47. Donc vous l'avez rencontré il y a 22, 23, vous m'avez dit, c'est ça?
Ouais, en fait, j'avais 22 ans quand je l'ai connu. J'ai connu, j'avais 22 ans et je venais de me séparer du papa de ma fille. Mmh. Donc voilà, donc on s'est rencontrés. Enfin, moi, il m'a beaucoup plu. Je trouvais que voilà, il avait une certaine prestance. Il avait une façon de parler. Il avait un bagout, quoi, quelque chose qui vraiment, moi, j'étais impressionnée. Et puis voilà, et puis au bout de quelques mois, je lui ai proposé de nous installer ensemble. Il a dit bon, ok, d'accord, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que donc moi je travaillais beaucoup, j'avais l'éducation de ma fille, donc il y avait des copains le soir à la maison, il fallait que je prépare à manger, puis c'était jamais assez bon, c'était trop salé, trop sucré, trop. Enfin, c'était jamais ce qu'il fallait, et puis il avait parfois des propos. Je sais pas, vraiment pas sympa, quoi. Et donc progressivement, il est reparti vivre chez sa maman.
Ça, c'est surprenant aussi. Ouais. Comment se fait-il qu'il vit avec sa mère? J'imagine qu'il a le même âge, la même tranche d'âge.
En fait, il a 60 ans.
Ah, il est plus âgé que vous.
Il est plus âgé que moi, ouais.
Et il a toujours vécu avec maman.
Ouais. Il a toujours vécu avec. Et je ne sais pas, je ne sais pas. C'est comme
vous
ça.
Vous la connaissez, en fait, cette femme?
Oui, je la connais. Et en fait, ce sont des gens très malsains, quoi. Ce sont des gens très malsains. Très. Pas bien du tout. Et puis, c'est vraiment une famille très toxique. Il y a toujours des histoires d'argent, l'argent, l'argent, l'argent. Enfin. Tout tourne toujours autour de l'argent, quoi. Il n'y a que ça. C'est leur seul sujet de conversation, c'est l'argent, ou alors c'est des critiques de tel, un tel. Enfin, rien d'intéressant. Rien d'humain. Il n'y a pas d'amour dans leur famille. Il n'y a aucun amour. J'ai jamais entendu parler d'amour. J'ai jamais entendu « Maman, je t'aime » ou « Mon fils, je t'aime ». Voilà, enfin, je dis ça comme ça, mais...
Non, mais c'est très important, ça, ce manque-là. Ça dit beaucoup de choses. Mais comment est-ce que vous avez été accueillie par cette femme? Parce que vous avez quand même partagé la vie de son fils pendant très longtemps.
Oui.
Comment elle vous a reçu ou pas?
Enfin, pas vraiment. Au tout début, bon, ça allait plus ou moins. Après, bon, moi, j'étais très jeune, j'avais 22 ans. Hein. Je pense que j'étais un petit peu facile, quoi. Je m'adaptais un petit peu à tout ça. Et puis, pendant des années, je ne la voyais pas. On avait des contacts téléphoniques. J'allais pas chez eux. Donc voilà. Enfin, c'était comme ça. On n'avait pas trop de liens, quoi.
Ça vous a pas inquiété, un homme qui vit encore chez maman à cet âge-là?
Inquiété.
Ou alors vous l'avez pas voulu le voir, vous l'avez mis de côté ce problème-là?
Peut-être que j'ai pas voulu le voir. Et puis je me disais honnêtement, bon, c'est sa maman, c'est important pour lui, voilà. Et pendant toutes ces années, je me disais, à un moment donné, il y aura un déclic, j'y crois. Alors que mon entourage me disait, laisse tomber, tu vas droit dans le mur. Réagis, tu vas droit dans le mur. Et c'est comme ça que 22 ans sont passés, je vous assure, Sabine. Je n'ai pas vu passer ces années.
Ça paraît
aujourd'hui,
fou.
Aujourd'hui, bah oui, ça paraît fou, mais c'est comme si j'étais endormie. Et même, il n'y a pas très longtemps, ma sœur, dont j'ai la chance d'avoir un frère, une sœur et une fille formidables, et une belle sœur. Qui sont vraiment là quand ça va pas.
Il y a de l'amour, il y a de l'amour de ce côté-là.
Ouais. Ah, il y a beaucoup d'amour. Vraiment beaucoup d'amour. Ouais, j'en parle, beaucoup d'émotions. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, ma sœur m'a montré des photos et elle m'a dit, mais regarde comme tu étais quand tu étais avec lui. En fait, il y avait une photo où il y avait ma petite maman qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Ma fille. Et moi, excusez-moi, en fait, j'étais cachée derrière ma mère. J'étais cachée derrière ma mère, comme une petite fille.
Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là, quand vous me racontez la rencontre avec cet homme à l'époque. C'est comme si vous aviez besoin qu'on vienne vous prendre par la main.
Oui, sûrement.
Ce premier mari, je vous en prie, Marie, on est là pour ça et vous savez ce que je pense des émotions. Il faut qu'elles sortent, il faut qu'elles s'expriment. Elles sont là pour ça. Le premier mari, le père de votre fille, était comment au niveau du caractère?
En fait, le père de ma fille était un peu identique à lui. Il était très. Il était lunatique, il était méchant. C'était vraiment quelqu'un de méchant qui. Un jour, on n'a pas hésité alors qu'on était en voiture, on traversait un champ. Il me dit, maintenant, si je veux, je te fais descendre de la voiture. Ah, je dis, mais... Non, mais... Et il s'est mis à crier et il s'est arrêté au bord d'un champ. Il me dit, tu descends de la voiture. Et donc, j'ouvre la portière et là, il me dit, non, mais c'est une blague.
Ouais, super, très drôle.
Ça, c'était le style du père de ma fille et... Donc, voilà.
Et votre papa à vous, il est où dans l'histoire? Il a existé?
Alors là, c'est... Mon papa est décédé. En fait, il y a eu un drame dans ma famille par rapport à ça. Déjà, mon père ne m'aimait pas. Je ressemblais beaucoup à ma sœur aînée qui a fui la maison à 19 ans. Elle est partie un soir en pyjama. Parce qu'il y a eu un conflit avec mon père, elle n'avait pas le droit de sortir, enfin c'était compliqué, donc elle est partie, on n'a pas eu de nouvelles pendant 10 ans. Et comme je ressemblais beaucoup, je ressemble d'ailleurs, mon père disait à ma mère, alors que j'étais dans la même pièce que lui, tu dis à ta fille qu'elle ne passe pas devant moi. Ta fille est une pute. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais 12 ans, il y a eu un drame parce que ma mère était une femme battue, maltraitée, humiliée. Et quand j'avais 12 ans, ben, un soir, mon père a voulu tuer ma mère et elle s'est défendue, elle l'a frappé et en fait, il est mort.
Ouf, voilà. Oui, d'accord, grosse histoire. Ce que je vous propose, Marie, parce que je vois que les informations vont arriver. On marque une pause. Prenez le temps de boire un verre d'eau, de respirer. Pensez à l'oxygène autour de vous à nouveau.
D'accord.
Et okay. on va reprendre cette conversation et on va parler de tout ça parce que je pense qu'il y a des choses importantes qui ont pu se construire, se créer autour de ce traumatisme-là. On en reparle dans quelques minutes, d'accord ?
D'accord, merci.
Merci, ne bougez pas.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne, Sabine Marin.
Soyez les bienvenus sur cette deuxième et dernière partie de la Libre Antenne. Nous sommes ensemble en direct sur Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler si vous souhaitez prendre la parole ce soir. Vous faites le 39-21, vous tomberez sur Estelle ou sur Maxime qui vous guideront avec beaucoup de douceur jusqu'à moi. Pour réagir, participer par SMS, vous faites le 7-39-21, vous commencez bien par le mot « nuit ». Et s'il vous plaît, pensez aussi à signer de votre prénom. Enfin, je vous rappelle notre adresse mail, elle est toute simple, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr.
Laissez votre message à Sabine Marin au 739 21, 75 centimes, plus coût du SMS.
Marie.
Oui, Sabine.
Alors, on était en train de faire le point sur les hommes de votre vie, si je puis dire, celui que vous avez quitté après près de 25 ans de relation. Le premier mari que vous avez eu, qui vous a plutôt maltraité. Et là, on parlait du premier homme, finalement, de notre vie à tous, c'est-à-dire papa. Et c'était un homme... Alors, redites-moi ce qui s'est passé. C'était un homme violent qui a menacé votre mère un jour.
Oui. Ah oui. Un soir, il a frappé régulièrement. Il frappait notre mère régulièrement. Et puis un soir, il est rentré et puis il a voulu la tuer. Et puis elle s'est défendue et avec un vase, elle l'a frappé et puis il est mort. Voilà.
Ouais. Vous aviez quel âge à ce moment-là?
J'avais 12 ans.
Est-ce que vous étiez dans la maison quand c'est arrivé?
Oui, mais en fait, on dormait. On était tous... on dormait et puis bon, voilà. Ensuite, après... la police et ma mère a été incarcérée pendant 18 mois. Voilà. On a été placés, je devrais dire, on a été jetés dans des foyers. Mes frères et sœurs étaient ensemble et manque de bol, il n'y avait plus de place pour moi. Donc je me suis retrouvée du jour au lendemain, j'ai quitté mon petit quartier. Je me suis retrouvée dans un foyer où il y avait des filles qui criaient, qui se disputaient, qui se tatouaient les bras, qui fumaient. Enfin, c'était un choc, un autre monde. Ouais. Et d'autant plus que j'étais la plus jeune. Les filles, elles étaient quand même un peu plus âgées que moi. Donc, je me suis retrouvée là et je n'ai pas vu ma mère pendant... 3 semaines pratiquement, et ensuite, c'était une période horrible, horrible. Et donc tout ça, voilà, ça laisse forcément des traces.
Après, elle est revenue votre maman. Elle vous a récupéré.
Oui, en fait, ma mère, donc il y a eu le jugement, donc elle a été libérée, acquittée. Et mais aller voir sa mère au parloir en prison, alors que ma mère, elle a fait que se défendre, comprenez. Je pense qu'aujourd'hui, une histoire comme ça, ça passerait pas. Quelque part, c'est de l'injustice. Moi, je dis que c'est de l'injustice. Et puis, c'était dans les années 80. Mais la façon dont la police s'est comportée, on m'a mise dans un bureau et le policier m'a dit... maintenant, tu vas nous dire ce que tu sais parce que ta mère ira en prison à cause de toi. Oh là. J'avais 12 ans. On m'enlevait les lacets des baskets. Le matin même, j'avais sport. C'était un samedi matin. On m'enlevait les lacets des baskets. Vous rendez compte, à l'âge de 12 ans. Tout ça, ça vous marque. Ça laisse des traces.
Évidemment.
Hein. Et donc, voilà, donc là, le jugement, ma mère était acquittée, elle a pu rentrer. Et à ce moment-là, les éducateurs m'ont dit, écoute, tu ne peux pas rentrer chez toi parce que tu vas être une charge pour ta maman. Elle est fatiguée, elle a besoin de se reposer. Tu rentreras chez toi plus tard. Et donc, le jour du jugement, ben, quand de l'audience, le juge des enfants m'a posé la question et j'ai dit ben non. Mais je n'ai pas dit non parce que je n'aimais pas ma mère. J'ai dit non parce que les éducateurs m'ont dit que je serais une charge pour elle. Et ma mère, elle m'en a voulu. Et figurez-vous qu'on en a pu reparler et j'ai perdu ma mère il y a un an et demi. Et j'ai passé la dernière nuit avec elle à l'hôpital. Ouais. Et je suis persuadée qu'elle m'a entendue. Je sais qu'elle m'a entendue. Et je lui ai dit, voilà, maman, tu sais, c'est pas que je ne voulais pas retourner avec toi, mais enfin, je lui ai expliqué la situation.
Ouais. Ça, c'est formidable que vous ayez pu le faire avant qu'elle parte. Je suis comme vous, persuadée, évidemment, qu'elle vous a entendue.
Oui, et je sais qu'elle m'entend encore. Je sais que j'ai des signes. Parfois, après, on n'y croit pas, ça, chacun. Mais je sais que ma petite maman, elle est auprès de moi. Et puis, et voilà, quoi. Donc,
Et combien, donc, voilà, combien de temps, du coup, vous êtes restée sans la retrouver, finalement, sans revenir chez vous?
Oh, ça a duré quelques mois parce que j'étais mal au foyer. Donc, en fait, je fuguais régulièrement pour aller chez ma mère.
Et vos frères et sœurs, ils étaient où pendant ce temps-là?
Ben, eux, ils étaient retournés illico presto chez ma mère, quoi, devant le juge. Mon petit frère, en fait, quand il y a eu ce drame, mon petit frère avait 6 ans.
Oui.
Voilà, mon petit frère avait 6 ans et... Mais aujourd'hui, c'est un homme exceptionnel. Vraiment, je suis fière de mon frère et je l'aime énormément. Et il le sait, puisqu'on se le dit.
Voilà. C'est chouette, ça. Mais moi, ce que je comprends à travers les quelques bribes là, que vous nous racontez ce soir, c'est que vous aviez désespérément besoin d'un homme qui vous prenne par la main, qui soit quelqu'un de solide, un roc un peu. Et j'ai l'impression que ce compagnon-là, il vous a laissé croire que ça allait être le cas quand vous l'avez rencontré. Vous m'avez dit, il m'impressionnait, je l'admirais, il avait quelque chose d'incroyable.
Ah oui, ça c'est
vrai. Il allait être probablement dans votre esprit jouer enfin le rôle du masculin dont vous aviez tellement besoin.
Oui.
Sauf que non, évidemment. Sauf que non.
Et j'ai aimé cet homme, je ne sais pas si c'est encore de l'amour, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est difficile, mais j'ai aimé cet homme mais plus que passionnément, quoi. Vraiment... Enfin, je veux pas dire que je respirais pour lui, mais c'était presque ça, quoi. Pour moi, c'était le plus beau, le plus intelligent. J'ai pardonné ses infidélités, ses mensonges, ses coups bas. Après, on peut dire que c'est de la dépendance, que c'est un tas de choses, mais au fond de moi, je sais que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amour pour lui, vraiment, vraiment.
Donc, comment vous avez pu supporter qu'il n'y ait pas de vie commune pendant près de 25 ans? Quasiment pas.
Ah ouais, mais j'ai accepté.
On dirait que vos propres désirs à vous, vos propres envies à vous, on dirait que vous avez mis un drap dessus, quoi.
Oui, parce qu'au fond de moi, j'avais l'espoir. Je me disais, un moment ou un autre, on vivra ensemble. Et figurez-vous que parfois, il venait passer les nuits chez moi, dans mon appartement. Et quand c'est des choses un peu perso, mais quand je le réveillais le matin, je lui disais, on vieillira ensemble.
Et vous qu'est-ce qu'il répondait?
Donc, rien.
Ah, oui, forcément. Quelle question.
Il répondait rien, quoi. Donc, ouais. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué, donc je l'ai quitté au mois de mai. Ça allait plus ou moins la première, la deuxième semaine, mais après j'ai chuté, mais terriblement, quoi. Là, vraiment, je pleurais tout le temps à nouveau, je mangeais plus, et puis c'était terrible, il me manquait. et par moments, il me manque encore. Alors, je ne sais pas comment interpréter ça. Par moments, j'ai de la colère parce qu'il m'a fait du mal. Ça, aujourd'hui, j'en suis consciente parce que la fois où j'étais malade, j'avais des migraines épouvantables et j'avais pris certainement trop de cachets. Donc, j'ai vomi. J'étais à genoux dans mon vomi. Il m'a enjambée pour partir travailler. Ouais. Vous voyez, sur le moment, bon, c'est passé, la journée a passé, bon, voilà. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. On peut pas faire ça.
Justement, Marie, quand vous avez des moments de down, comme ça, vous vous dites, j'ai du mal, il me manque, par pitié, repensez à toutes les raisons pour lesquelles vous l'avez quitté.
Ouais.
Une fois de plus, ne vous racontez pas un film édulcoré. Ne vous repassez pas un scénario dans lequel vous avez enlevé tout ce qui était crade et douloureux et difficile. Parce que malheureusement, c'est souvent ce qu'on fait.
Oui.
Quand on s'auto-apitoie en se disant « je suis malheureuse, il me manque, j'aimerais le revoir », on occulte comme par hasard tout ce que vous venez de me dire là. Alors, chaque matin, pensez bien à toutes ces raisons-là.
Oui.
Revoyez-vous à quatre pattes dans votre vomi, comme vous me dites, et demandez-vous si vous avez vraiment envie qu'il revienne, quoi.
C'est vrai que par moments, je me dis que c'est un peu mon imagination. Vous voyez, peut-être que je me l'imagine d'une certaine manière.
Mais bien sûr.
Mais la réalité, elle est vraiment tout autre, quoi.
Et ça, c'est un...
Oui.
Pardon, allez-y.
Pardon. C'est comme, par exemple, aller dans certains endroits ou, par exemple, dans certains restaurants où on était. Je peux plus y aller. Je n'y arrive pas. C'est comme si il y avait son empreinte, comme si il y avait quelque chose de lui dans certains endroits. Ça paraît, enfin, c'est. Vous
ça,
voyez
c'est
ce qu'on avait associé.
Oui, bien oui. sûr. Après, c'est à vous de choisir si ça vous convient ou pas. D'un côté, vous pourriez vous dire effectivement, je n'ai pas envie d'aller dans des endroits qui me rappellent quoi que ce soit avec lui. Mais si vous en avez envie quand même, alors effacez ça, parce que c'est de l'imaginaire. C'est juste le pouvoir que vous lui donnez à vous, à lui, vous-même, voyez.
D'accord.
Il n'a pas ce pouvoir-là. Il a laissé aucune empreinte. Le restaurant ne lui appartient pas. Aucun lieu ne lui appartient. Donc ça, c'est un pouvoir que vous lui donnez ou pas. Vous pouvez aussi choisir de lui retirer ce pouvoir-là. Cet endroit, objectivement, est neutre. Si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Ce n'est pas plus à lui qu'à moi.
D'accord. Ouais,
et là, vous avez raison, c'est la force de l'imaginaire dans toute rupture, c'est toujours pareil. C'est tout ce qu'on se raconte, il faut être le plus possible honnête avec soi-même et se dire, est-ce que ce que je me raconte là, c'est vraiment la réalité? Ou est-ce que je suis en train de me faire des films, des scénarios et que je suis loin de la vérité?
Mais c'est vrai que ma famille me dit, en fait, mais tu te fais des films, parce que la réalité, c'est pas ça. Déjà, tu as même changé physiquement. Depuis que tu l'as quitté, tu as changé physiquement. Tu as un visage plus lumineux, tu es quelqu'un d'autre, voyez. Mais par moments, voilà, j'ai comme ça... je le mets sur un piédestal, quoi.
Et vous savez, je le dis souvent, mais parce que je me retrouve souvent face à des femmes qui vivent les mêmes situations...
Oui.
On a tendance à ne pas se faire le film de ce qu'on a vécu, mais de ce qu'on aurait voulu vivre.
Oui.
Et là, on s'accroche. On entretient, c'est comme si on mettait du carburant tous les matins dans la pompe, dans le réservoir à malheur. Parce qu'évidemment, quand on repense au scénario qu'on aurait voulu vivre, on se dit « Oh là là, ça aurait été tellement bien
oui. ».
Mais le vrai scénario qu'on a vécu, c'est pas celui qu'on aurait voulu vivre. Sinon, on n'en serait pas là.
Oui. Mais bon, c'est difficile. Par moments, c'est difficile. Et puis, comme je vous ai dit, je tous les 15 jours, je vois une thérapeute, une psychothérapeute.
Mm-hmm.
Et puis, on fait des séances de MDR. Bon, là, ça va. Mais les premières séances, il y a à peu près un an, c'était très... Ça remue pas mal. Hein.
C'est ce que j'allais vous dire. Et... Surtout quand il y a un traumatisme comme le vôtre à la base, c'est quand même extrêmement violent. Oui, c'est un grand ménage de printemps, le MDR. Il faut y aller, il faut remonter les manches et aller dans le cambouis. Hein.
Tout à fait. Mais,
en même temps,
ça aide.
Mmh. Et oui.
Ouais. C'est vraiment. Oui, et puis, j'écoute souvent votre émission, notamment en podcast. Hein, et les gens, pardonnez-moi, c'est juste une parenthèse. En fait, les gens parlent de thérapeute. La première thérapeute que j'ai rencontrée, ça n'allait pas du tout. du tout, je la sentais pas, ça fonctionnait pas. Donc j'en ai eu une deuxième avec laquelle ça marchait très bien, mais elle faisait pas de MDR. Donc elle m'a orientée vers une consoeur, on dit certainement, qui pratique ça. Donc c'est pour dire aux gens qu'il faut pas laisser tomber. si ça ne fonctionne pas une première fois, et ben voilà, il faut voir avec quelqu'un d'autre, quoi.
Parce que merci d'apporter de l'eau beaucoup à mon moulin.
Oui, non, mais ça c'est vrai. Il faut pas s'arrêter. Si ça fonctionne pas avec une personne, et ben il y en a assez pour jusqu'à ce qu'on trouve la bonne. Et voilà, moi j'ai trouvé quelqu'un vraiment de, enfin on me l'a conseillé, vraiment très bien, une femme vraiment très humaine et qui m'aide vraiment beaucoup, quoi, qui me guide beaucoup. Ça, c'est vrai.
C'est extrêmement important et vous avez entièrement raison. Ce n'est pas forcément la première rencontre qui est la bonne. C'est même, je vous dirais, rarement la première rencontre qui est la bonne.
Oui, oui. Mais je pense que quand on a vraiment... Ouais, on a vraiment envie de... En fait, quand on sent qu'au fond de nous, il y a quelque chose, un poids, une douleur qu'on traîne et à un moment donné, voilà, on ne peut plus vivre avec ça. Donc, bon, ça ne va pas avec un thérapeute. C'est comme un médecin, il vous donne un traitement, ça ne fonctionne pas. Ben, on va voir un autre médecin, enfin, je pense, je ne sais pas.
Bien sûr.
Et puis voilà. Mais c'est vrai que cette situation-là, actuelle, c'est un peu compliqué pour moi. Quand même, depuis le mois de mai, alors ma thérapeute me dit, oui, mais vous comprenez, c'est normal. Vous avez passé beaucoup d'années avec cet homme. C'est une addiction. Ça prend du temps, mais
c'est, pour moi, c'est comme un deuil. Il faut 2 ans à peu près pour vraiment se libérer de plein de choses. Parce qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs deuils à faire dans un seul deuil, si vous voulez. Il y a d'abord celui de la relation elle-même. Elle n'existe plus. Il y a le deuil de celle qu'on était dans cette relation-là. Ça, c'est un peu compliqué, mais c'est un travail intéressant à faire.
Ouais.
Le deuil de celle que vous étiez face à lui, elle n'existe plus, cette femme-là. Cette femme dans ce couple-là n'existe plus. En même temps, on en profite pour faire le deuil des projets qu'on aurait eu ou qu'on aurait eu envie d'avoir avec cette personne.
Ouais, tout à fait ça.
Tout ça, ça se conjugue au passé, ça se range dans une boîte qu'on ferme et qui n'existe plus. Et quand on a traversé ce travail-là et qu'on est dans l'acceptation, quand le deuil est fait, alors on travaille sur la relation à soi qu'on va reconstruire. Même construire quelquefois, quand je dis reconstruire, je me rends compte que certaines personnes ne l'avaient même jamais construite, cette relation à elles-mêmes. Et tout ce qu'on aurait pu donner à l'autre, tout cet amour qu'on donnait à l'autre, cette attention, on va apprendre à se la donner à nous-mêmes. À retourner ça vers nous, pour nous. Et quand on est vraiment reconstruite, quand on a cicatrisé, alors on dégage une autre énergie. Et là, on rencontre d'autres personnes, d'autres hommes, qui sont évidemment sur un schéma très, très différent.
Oui, parce que, vous voyez, ce côté-là aussi, j'ai un petit peu l'inquiétude de ne pas rencontrer quelqu'un, de finir ma vie seule. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être pas le moment. J'ai encore du travail à faire, j'ai encore un... Je ne sais pas, mais ce que vous dites est tout à fait juste. Parce que par moments, je repense à toutes ces années. C'était ma jeunesse. Bon, je ne suis pas vieille, mais c'est une partie de ma jeunesse quand même. Vous voyez, où j'ai l'impression pas d'avoir perdu parce que bon, j'ai élevé ma fille, j'ai fait certaines choses, j'ai quand même avancé dans ma vie professionnellement. Et puis, mais. J'ai quand même l'impression d'avoir perdu des années comme ça, enfin une partie de ma jeunesse. Voilà, oui, c'est vrai. Je dis franchement, c'est ça.
Alors, on a souvent cette impression-là. Moi, je pense que chaque échec, chaque apprentissage, chaque douleur est là pour nous apprendre quelque chose et nous faire grandir. Et c'est ça qui fait qu'on est celle qu'on est aujourd'hui.
Ouais.
Malheureusement, on ne grandit pas dans du coton, on n'apprend rien dans un cocon où tout est facile et doux. Ce sont les épreuves de la vie qui nous renforcent et qui font qu'on est celle qu'on est aujourd'hui aussi, avec ces ressources-là, avec cette force-là. Ouais, quelquefois, je vous l'accorde, on en prend beaucoup, on en prend beaucoup sur les épaules pour grandir, mais bon.
Ouais.
Mais ce que vous avez vécu, c'est pas une perte de temps, ce sont des expériences de vie. qui font qu'aujourd'hui, vous êtes probablement tellement plus mature qu'il y a quelques années.
Ah oui, 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 tout à fait. Ça, c'est clair. Mais bon, c'est... Enfin, vous voyez, quand je regarde et que je me... Derrière moi, et que je revois la fille de 22 ans qui a eu un bébé, enfin... j'ai l'impression que c'était une petite fille, quoi. C'est étrange. Mais
Marie, j'ai une pub qui me fait des grands signes de la main, là. Elle demande à passer.
D'accord.
On marque d'accord. Une pause et je vous récupère. Merci.
Merci, Sabine.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Mercedes-Benz.
Quand je dis que je suis chauffeur de taxi et que je conduis la nuit, les gens pensent que je vis en décalé. Ils ont raison, j'ai un temps d'avance. C'est pour ça que je conduis le nouvel EQV. Le 8 places 100% électrique par Mercedes-Benz.
Avec sa motorisation 100% électrique, ses 8 places et jusqu'à 351 km d'autonomie, ouvrez la voie. Découvrez-le sur mercedes-benz.fr/vans. Mercedes-Benz.
Oui, Marie.
Oui.
On peut reprendre le fil de notre conversation. Et oui, ce que je vous disais, c'est que tout ce que vous avez vécu, ça n'est pas une perte de temps, c'est un parcours de vie.
Oui.
Et comme vous dites vous-même, quand vous vous retournez, vous voyez cette jeune fille que vous étiez, et la femme que vous êtes aujourd'hui, l'expérience que vous avez, les capacités que vous avez développées, la compréhension des choses que vous avez aujourd'hui, tout ça, c'est grâce à ça aussi.
Oui.
Et vous êtes à un âge où vous avez encore largement le temps de changer de route et de prendre un nouvel élan et de rencontrer des gens bien différents après. Parce que vous ne serez plus dans la réparation. C'est comme si jusqu'à maintenant, vous aviez été tout le temps avec les hommes dans une sorte de réparation.
Oui.
Et là, vous allez vous réparer vous-même pour être maintenant dans la construction.
D'accord, oui. J'ai encore du chemin à faire et... Mais bon... C'est pas toujours. Enfin, tout ce qui concerne mon passé, mon enfance et tout ce qui s'est passé, voilà, ça, c'est, ça va mieux. Je veux dire, c'est réglé, en fait, c'est digéré, comme vous dites parfois.
Et ce qui est digéré n'a plus de goût, oui.
Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'avec cet homme, c'est. Vous savez, je l'ai dans la tête parfois, enfin, du matin au soir, je l'ai dans la tête. Je me lève, ben ça, c'est dans la tête, je me couche.
Ça, c'est très bien. Vous savez pourquoi ?
Non.
Parce que ce qu'il y a dans votre tête, ça vous appartient. Donc, c'est à vous de le gérer, de reprendre les rênes.
D'accord.
Eh oui. Ouais. Quand vous me dites « je l'ai dans la tête », on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que vous vous racontez à vous-même.
D'accord.
Et vous ne vous racontez pas la bonne histoire. Vous oubliez dans ce que vous vous racontez à vous-même, bah, par exemple, l'épisode du 4 pattes dans votre vomi.
Ouais.
Ouais. Eh oui. C'est, alors je reprends celui-là parce qu'il est effectivement assez gore et assez violent pour être marquant. Mais quand on dit j'ai quelqu'un dans la tête, les images qu'on se projette, l'histoire qu'on se raconte, vérifions que c'est la bonne.
Ouais. Mais par moment, vous voyez, quand je pense à lui, machin. Je me reprends en me disant non mais n'oublie pas tout le mal qu'il t'a fait, tout ce qui s'est passé, tout. C'est pas que l'histoire du vomi, il y avait plein d'autres choses encore. Et voyez quelque part c'est comme si aujourd'hui j'en prenais conscience, mais malgré tout par moment, et voilà, il y a ce côté où je le mets sur un piédestal qui prend le dessus. Et c'est ce que j'arrive pas à gérer en fait. Je me fais comprendre.
Si, tout à fait. Le fait de l'avoir identifié, pour moi, c'est déjà la moitié du chemin qui est fait. C'est-à-dire que vous avez compris qu'il y a encore un truc qui ne va pas, qui n'est pas normal, qui n'est pas sain dans cette façon de penser à lui. Et là, vous pouvez continuer à travailler là-dessus aussi en EMDR ou en thérapie. Hein.
D'accord.
Maintenant que le gros ménage a été fait pour le reste, de vous concentrer sur la manière que vous avez aujourd'hui de vous raconter l'histoire par rapport à lui.
D'accord.
Il y a, pendant qu'on parle, Marie, il y a plein de SMS qui sont arrivés pour vous. Je vous les partage, notamment Alice qui nous dit « Pensez à vous et à votre bonheur, vous êtes jeune, la vie est belle. Courage et gros bisous », vous dit Alice.
Oh, merci, c'est adorable. Merci beaucoup.
Il y a Annie qui dit « Faites-vous du bien Entourez-vous de gens bienveillants. Votre vie était douloureuse. Vous méritez le bonheur.
Ouais,
et puis, merci. Vital qui nous dit « Marie a l'air d'avoir un grand cœur. J'aimerais bien échanger avec elle si elle veut mon numéro. » Et Vital nous laisse son numéro pour vous si vous souhaitez discuter.
Ah oui, d'accord.
Vital, je ne sais pas si c'est un prénom ou un pseudo de femme ou d'homme, j'en sais rien. Bon, en tout cas, peu importe, pour l'instant, c'est simplement une main qui se tend vers vous.
C'est gentil, merci beaucoup, c'est adorable. C'est adorable.
Pour en revenir à ce qu'on disait, je pense que vraiment, quand on a pris conscience, aussi, autant que vous semblez l'avoir fait, de ce qui se passe, on est déjà vraiment bien avancé sur le chemin.
Oui, je pense que j'ai bien avancé parfois. Enfin, voilà. Vous savez, je vais juste vous raconter une petite chose, je ne veux pas trop. En fait, je rêvais pendant longtemps d'apprendre à nager. Et figurez-vous que il y a 3 semaines, je me suis inscrite à des cours pour apprendre à nager. Et ce qui a fait un déclic, c'est que à l'avant-dernière séance chez la thérapeute, elle m'expliquait, après une séance de MDR, elle me disait « Vous n'avez plus besoin de cette bouée, elle est percée », donc en référence à mon ex, certainement. Elle me dit « Vous pouvez nager jusqu'à la terre ferme ». Et j'avais envie de lui dire « Mais vous savez, madame, je ne sais pas nager ».
L'image est belle, ouais, effectivement.
Ouais. Et du coup, je sais pas si c'est ça qui a fait que, eh ben, je me suis inscrite à des leçons de natation et ça paraît peut-être banal pour les gens qui savent nager, mais je peux vous assurer que c'est une grande victoire pour moi. Je suis vraiment très fière, d'avoir enfilé un maillot de bain, d'avoir traversé la piscine, d'avoir eu le courage, vraiment, c'est une grande fierté. Je suis là.
Vous pouvez, parce qu'en plus, la symbolique est belle, parce que c'est devenir autonome. C'est devenir autonome.
Voilà.
Et puis, vous savez, j'explique souvent que quand on a vécu un traumatisme, on est resté coincé, une partie de nous est restée coincée à l'âge où on a vécu ce traumatisme.
Ouais.
Et en apprenant à nager, c'est comme si vous alliez récupérer la petite fille qui était bloquée par ses peurs à un moment donné. Et que vous lui disiez, viens, je vais t'aider à grandir maintenant, je vais t'aider à être autonome et libre.
Ouais.
Donc c'est super important.
Ouais. Non, mais c'est... Les choses, elles se font comme ça dans la vie. Vous voyez, c'est comme les rencontres, on rencontre des gens, parfois... Enfin, il n'y a pas de hasard, quoi. Enfin, voilà, et puis cette histoire de natation, c'est... Je suis vraiment... Je vous assure, écoutez, le premier cours, quand je suis rentrée, j'ai pleuré dans la voiture tellement... c'est vrai que ça paraît pas grand-chose. Les gens vont m'écouter, vont se dire, bon, bah... Attends, apprendre à nager... Mais non, mais pour moi, c'était vachement important. J'avais très peur de l'eau, aucune confiance. Voilà, et puis là, ben, j'ai réussi à aller prendre des leçons de natation et à aller nager là où j'avais pas pied. C'est énorme, vraiment.
Oui, je comprends tout à fait.
Voilà. Donc,
c'est formidable tout ça, Marie. Vous êtes sur le bon chemin, je suis. En plus, sur ce chemin-là, il y a une thérapeute qui vous fait du bien, donc c'est encore mieux.
Oui,
c'est juste une question de temps maintenant.
D'accord.
Pour qu'une nouvelle ère s'ouvre à vous.
Oui, d'accord.
Et quand je parle d'air, peut l'écrire de deux manières.
Oui. Je vous remercie vraiment du fond du cœur, Sabine. Vous savez, j'écoute souvent votre émission, comme je dis, en podcast, parce que je me lève très tôt. Et voilà, vous faites du bien, vous nous faites du bien. Et vraiment un grand, grand, grand merci. Vous êtes une belle personne, vraiment. Et je vous souhaite un bon rétablissement.
Ça me touche beaucoup, merci Marie. Vous ne raccrochez pas.
Oui, d'accord.
Estelle va vous donner les coordonnées de la personne qui souhaite entrer en contact avec vous.
Très bien, merci beaucoup.
Je vous embrasse très fort, Marie. Prenez bien soin.
Moi aussi, je vous embrasse. Merci Sabine, au revoir.
Au revoir. Et nous allons faire maintenant la connaissance de Michel, que j'accueille sur notre libre antenne. Bonsoir à vous, Michel.
Allô?
Bonsoir, vous m'entendez?
De très loin, Sabine. Je vous entends, mais de très loin.
Ah, comment se fait-ce?
Ah non, ça va bien, ça va très bien. Oui, ça va beaucoup mieux.
Bon, parce que là, je suis collée au micro, je ne peux pas faire mieux. plus je vais l'avaler,
oui,
sinon.
Ça va bien, oui. Voilà, je vous appelle parce que... Oh, comment dire, j'ai tellement...
Allô ? Allô, allô ?
Oui, allô.
Ah, Michel, vous avez dû appuyer sur quelque chose, je vous ai perdu.
Non, bah, tout va bien.
Voilà, ça y est, vous êtes là.
Alors, allô ?
Oui, je vous entends.
Ah, voilà, oui. Oui, voilà. J'appelle parce que il y a à peu près, je crois que ça fait 6 mois, j'avais été sur l'antenne, j'avais eu la chance de vous avoir, que vous m'écoutiez, ou bien 3 quarts d'heure, c'était au sujet de ma fille.
Alors, résumez-nous un petit peu ce qui s'était dit à l'époque, s'il
vous
plaît.
Oui, bien sûr. Maintenant, c'est-à-dire que depuis, mon mari est décédé, ça fait 6 mois. Mmh. Et depuis ce temps-là, je n'entends que des critiques sur mon mari, des critiques sur notre couple, sur ce que ma fille a vécu. Alors là, c'est vraiment terrible, terrible. Et là, bon, cet après-midi, je suis allée, elle m'a invitée chez elle. Tout s'est très bien passé, comme d'habitude. Tout commence toujours bien. Et puis, d'un seul coup, elle m'a dit oui, papa disait rien, et il ne parlait jamais. Et ça n'a été que des critiques, que des critiques. Et elle m'a raccompagnée à l'appartement où j'habite parce que j'ai déménagé pour être plus proche d'elle. Et j'ai déjà entendu une dame qui avait fait la même chose que moi. Et malheureusement, ça n'a pas été une très bonne idée du tout, du tout, du tout. Parce qu'on s'était mis dans l'idée, toutes les deux, oui, c'est une sorte de rêve. On allait faire ceci, on allait faire cela, et puis finalement, il n'y a pas grand-chose qui va. Voilà, je suis très, très triste parce que tout à l'heure, elle m'a dit « Tu es toujours en train de me critiquer ». Or, moi, j'ai l'impression que c'est moi qui suis toujours... on me critique toujours, toute la famille, depuis que mon mari est décédé, toute la famille, le peu de famille que nous avons, c'est toujours la critique, c'est toujours... j'ai l'impression que je ne dois pas ouvrir la bouche, sinon, attention, tout va être... je pleure beaucoup. Par contre, ce que vous disiez avant, Sabine, c'est très intéressant parce que quand on voit des photos de ça, moi, c'est des photos de moi quand j'avais, mettons, quand j'avais 30, 40 ans, j'ai l'impression que c'est pas ma vie du tout. Comment se fait-il que j'ai ce malaise lorsque je vois des photos de nous deux, j'ai l'impression que c'est pas moi, que c'est pas nous. C'est bizarre, non ?
Oui, c'est curieux. Là, j'ai pas assez d'informations sur votre histoire de vie pour pouvoir analyser ça. Mais si on remonte un petit peu dans l'historique, parce que je me souviens pas de tout. On s'est parlé il y a quelques mois, évidemment. J'ai pas tout mémorisé.
Oui.
Vous avez eu un seul enfant ?
J'ai un fils qui a 52 ans et une fille qui est venue 7 ans après. Oui.
Et alors, comment ça se passait avec eux quand ils étaient encore à la maison ?
Quand la famille était au coup. C'était merveilleux. Ouais. Il y avait beaucoup de rire, beaucoup de... Je jouais beaucoup avec eux. Je n'ai jamais été une maman qui était très prendre dans les bras des câlins. Pas tellement, mais c'était plus le rire et les jeux.
La complicité, quoi.
Je trouvais que c'était pas plus mal. Ouais. Je trouvais que c'était très bien. Oh non, c'était très bien. D'ailleurs, ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal à quitter la maison. Beaucoup. À 23 ans, ça a été très dur, les deux. Ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal à quitter. D'ailleurs, ils n'avaient pas envie de quitter, vraiment.
Et vous l'avez vécu comment, ça, ce départ ?
Oh ben, un certain soulagement, quand même.
Ah oui ?
Parce qu'à 23 ans, j'ai mon fils qui avait quand même déjà... un certain caractère et ma fille beaucoup moins. Mais ma fille est arrivée avec beaucoup de garçons dans la famille, donc elle a été très gâtée. Moi, j'ai beaucoup gâté ma fille et je pense que c'est pas une bonne chose du tout que de gâter les enfants. Je trouve que Enfin, j'ai plein de choses qui ne vont pas. Et vous voyez, Sabine, là, je cherche vraiment un bon psy aussi. J'en ai eu un pendant 7 ans, pendant que mon mari était souffrant. J'ai eu un psy qui était excellent. Il est parti en retraite, il avait le droit. Et là, je suis sans le... je vais voir quelqu'un tous les mois, mais je sais pas. J'ai plein de choses. Je vous dirais que j'ai comme sur la poitrine plein de choses qui sont très très lourdes et j'arrive pas à expliquer d'ailleurs. J'arrive pas à expliquer.
Mais puisque cette ambiance à la maison était plutôt paisible et sereine au départ, quand est-ce que ça commence à arriver les reproches là que vous mentionniez tout à l'heure?
Ben c'est au départ quand ma fille déjà à la maison, c'est parce que non, quand elle était à la maison, ça n'allait pas toujours bien. C'est-à-dire qu'elle avait des choses étranges quand même. Une fois, elle a décidé de déchirer son papier peint. C'était la mode des papiers peints. Elle a enlevé son papier peint et elle a dit non, c'est pas beau, moi je ne veux plus ça. Et mon mari et moi, on était très, on avait une sorte de peur vis-à-vis de ces actes qu'elle montrait. Et souvent, ça n'était pas vraiment des crises, mais c'était des mal-êtres, du mal-être, parce qu'elle me disait souvent, tu sais, moi, je n'ai pas demandé à vivre, je n'ai pas demandé. Et moi, je suis allée voir un psy avec elle, et j'ai laissé le psy avec elle, évidemment. Je suis sortie de la pièce, et après, cette dame m'a dit... son père n'est pas très présent, voilà. Et c'est vrai que quand elle me reparle de son papa, elle me dit, il ne parlait pas. C'est vrai que c'était pas quelqu'un qui était facilement, qui parlait facilement. Non, il fallait toujours que moi je m'y mette, si je puis dire. J'avais l'impression que je suis quelqu'un, il me semble, qui parle très facilement, enfin d'habitude. Et lui avait du mal à parler, mais quand c'était parti, il arrivait quand même à s'exprimer, mais avec beaucoup de mal, beaucoup de mal.
Visiblement pas assez, en tout cas, pour votre fille.
Comment ?
Je dis visiblement, il ne s'exprimait pas assez, pas pour votre fille. Elle aurait eu envie de probablement
oui, mais là, c'est une communication des critiques, plus. C'est des critiques, et t'es ceci, et ta maison, c'est dégueulasse ta maison, c'est des réflexions très très méchantes. C'est le bazar chez toi, c'est sans arrêt comme ça. Alors quand je lui dis, parce que quand elle part, moi je suis complètement, je m'attends toujours à, comme vous disiez, au sujet de cette dame qui envisageait sous un jour merveilleux tout ce qu'elle vit, moi je suis un peu comme ça. Je comprends pas pourquoi j'envisage toujours des choses magnifiques et tout, et puis après, ah ben non, c'est pas comme ça, c'est pas la réalité. Moi, je ne comprends pas pourquoi je marche comme ça.
Mais ce que j'arrive pas à comprendre dans cette histoire, c'est quand est-ce que votre fille a commencé à s'en prendre à vous de manière méchante, comme vous dites là? C'était avant le départ de votre mari ou ça c'est depuis?
Ah non, c'était largement avant, non, largement avant. C'était à l'adolescence, parce que je me souviens, elle avait inscrit sur son cahier qui était ouvert sur son bureau, c'était grand ouvert, donc forcément je le voyais. Cette petite égoïste ne pense qu'à elle, c'était à mon sujet.
Hein. Ouais. Bon, en même temps, les crises d'ado, on connaît ça, elle a quel âge aujourd'hui?
À 42 maintenant.
Voilà, c'est ça le problème, c'est que quel est, oui, quel est ce comportement entre 15 et 20 ans, pourquoi pas? Mais là, ça va comme ça.
Mais je trouve qu'elle ne va pas bien. Je la ressens comme ça, je la sens mal. Je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que c'est pas à moi qu'elle en veut. Parce que elle me parle souvent d'argent, d'héritage, parce que j'ai eu la bonne idée, je sais pas, parce que finalement j'ai un bien au soleil. Alors elle me dit, elle m'a déjà dit il y a des années, elle me dit tu peux le donner aux petites filles, j'ai deux petites filles, hein. Tu peux le donner, mais je dis écoute Stéphanie, vous êtes à deux devant le notaire. Hein. Alors là elle m'a dit aujourd'hui, c'est ça qui m'ennuie, c'est cette histoire d'argent toujours. Elle me dit, tu sais, tu peux tout donner à mon frère, hein, ça m'est complètement égal. Alors, je ne comprends pas ce qu'il y a là. Il y a quelque chose qui ne va pas là.
Oui, ça ressemble un peu à la provocation, cette histoire.
Oula, excusez-moi. Hein. Oui.
Vous êtes là?
Oui, alors elle me dit aussi, mais pourquoi tu restes toute seule? J'ai trouvé quelqu'un, je ne sais pas, c'est un petit peu n'importe quoi, je ne comprends plus. Et moi, j'ai un chagrin énorme.
Depuis le départ de votre mari?
Je ne sais pas si c'est vraiment ça. C'est le fait que je ne puisse pas, comme la dame avant, expliquer. Pourtant, elle a eu un parcours très, très, plus que douloureux, hein, bouleversant. Elle expliquait que malgré tout, elle avait son frère, elle avait sa sœur. Et moi, je n'ai strictement personne autour de moi dans la famille. Personne.
Est-ce qu'il y a des amis qui pouvaient vous confier?
Un peu orpheline.
Michel, est-ce qu'il y a des amis à qui vous pouvez vous confier?
Là, j'ai justement, depuis le décès de mon mari, là, actuellement, je peux dire que j'ai fait des rencontres, mais qui ont été bien... je me souviens que par le passé, c'était plutôt subi. Et maintenant, je vois que ce sont des gens que j'ai choisis, vraiment.
Bon, ça, c'est une bonne chose.
Et ça, c'est une chose nouvelle et qui est bonne.
Et votre fille, est-ce que vous l'avez...
Je me sens très, 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 très seule, très isolée, comme si j'étais sur une île déserte, complète.
Et votre fille, est-ce que vous arrivez à lui faire part de ce mal-être?
Pas du tout.
Et pourquoi?
Parce que je ne parle jamais beaucoup de moi. Parce qu'elle me dit, oh, de toute façon, tu racontes toujours la même chose, on le sait, tu l'as déjà dit. Oh, c'est-à-dire, à chaque fois, je suis mise... je suis très... avec mon fils, ça ne va pas mieux. Hein. Les relations ne sont pas apaisées du tout. Hein. Du tout.
Moi, ça me semblerait important que vous leur disiez à quel point ça vous fait du mal, tout ça.
Ah oui, beaucoup. J'ai beaucoup de mal. Parce que j'ai comme l'impression que depuis qu'ils sont... Oui, il y a une chose aussi qui m'agace beaucoup, c'est ma fille. C'est qu'elle est toujours en train de me dire, bon, ma belle-mère a perdu un enfant, ma belle-mère n'a pas eu de robe de mariée, bon, on s'en fout. Mais elle est toujours en train de me dire, oui, il faut que j'aide ma belle-mère, tu comprends, avec tout ce qu'elle a fait pour nous. Il faut... Alors là, ça m'agace énormément, parce que cette dame, moi, je n'ai rien contre elle, mais qu'elle me parle toujours de cette personne, alors que moi, je suis là, je suis tout proche d'elle, je l'aime. Mais moi, je vais bientôt la haïr, hein, ça, je le sens. Je sens que un petit peu à la fois, moi, je m'éloigne d'elle. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous êtes critiqué, quand on vous dit plein de choses désagréables, bon, ben, on s'en va. Moi, j'ai l'impression que je vais partir. Je vais m'éloigner. Je m'éloigne.
Mais c'est pour ça que je pense que pour éviter ça, rétablir un dialogue, ça serait intéressant, important. Dire exactement ce que vous m'avez dit là, par exemple, quand elle vous parle de cette femme, en disant, écoute-moi, ça me fait du mal.
Je lui ai dit, en parlant de vous, justement, je lui ai dit, tu sais, à Europe 1, il y a une très bonne psychologue qui a dit l'autre fois qu'il fallait s'exprimer. Alors, elle a commencé, c'est là qu'elle s'est mise en colère, elle m'a dit, oui, tu m'as dit que tu ne voyais plus de psy, tu racontes n'importe quoi, mais je ne peux plus pas lâcher un mot.
Alors là, vous pourrez lui clouer le bec en lui disant que je ne suis pas psy, si elle veut jouer avec les mots.
Excusez-moi, c'est vrai. Oui. Non, mais c'est ça, elle a vraiment besoin que... C'est le mot, mais je crois qu'étant enfant, on ne l'a pas assez remise. Elle a été beaucoup trop gâtée, ouais. je trouve. Ouais. Et là, maintenant, je vois que je m'éloigne. Mais je m'éloigne. C'est bizarre, vous savez, Sabine, cet effet que vous avez l'impression de... Bon, bah, puisque c'est comme ça, moi, je ne veux plus me faire maltraiter, je m'éloigne.
Moi, ça ne me paraît pas
bizarre,
ça me paraît humain aussi. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on a plus envie d'être traité comme ça. Ce qui est dommage, c'est de ne pas arriver à dire les choses quand même plus en profondeur, quoi.
Bah, c'est-à-dire que son compagnon n'est pas non plus...
Alors, j'allais y venir, justement. J'allais vous demander si elle a un homme dans sa vie et comment ça se passe.
Je pense que son compagnon il ne comment je vais dire, il m'aime bien, je suis persuadée, mais finalement ça ne lui plaît pas tant que ça à elle.
Ah. Pourquoi vous pensez qu'elle elle a moins de champ libre du coup?
Et moi j'ai malheureusement je vais souvent, s'il y a par exemple dans une pièce il y a un homme ou une femme, en général je vais aller vers l'homme. Mais ça c'est une histoire d'enfance, hein, parce que je m'entendais beaucoup mieux avec mon père qu'avec ma mère. Hein. Et elle m'a dit l'autre fois, c'était amusant, parce qu'elle me dit « Ah maman, elle est pour les garçons plutôt. » Alors c'est... Mais peut-être c'est vrai, je donnerais plus raison à lui qu'à elle. Pourquoi ? Je sais, j'arrive pas vraiment à comprendre.
Non, mais ça, c'est peut-être difficile pour elle à vivre aussi. Hein.
Oui,
mais
oui,
ça,
je
tout ça,
oui.
Tout ça, ça mérite des échanges, ça mérite des vraies conversations. Ah, c'est comme ça qu'on avance avec les gens qu'on aime. C'est vraiment dire les choses en profondeur.
Je sais pas. Non, parce que tout de suite, son compagnon me dit « Ah oui, mais Pierre, c'est le nom de mon mari. Hein. Pierre était ceci, il était cela, il me parlait pas. Alors, c'est toujours que des critiques. » Non, vous savez ce qu'il y a, Sabine ? Je voudrais enfin être dans un milieu apaisé, comme quand je vais à l'association dont je fais partie. Mmh. Ah, on me dit « Ah, voilà, alors la semaine, comment ça s'est passé ?» Et on rit, des petites histoires drôles. Voilà, je me sens vraiment bien.
Eh bien, ben, faites ça, Michel. Prenez ce recul nécessaire. Entourez-vous de gens qui vous font du bien, choses positives.
J'ai eu de la chance, là. J'ai eu beaucoup de chance, là.
Et puis, prenez un peu de recul par rapport à ces gens-là de votre famille. Et puis, vous verrez bien dans quelques mois si ça les interpelle quelque part, s'ils viennent vous dire « C'est bizarre, on ne te voit plus, tu appelles plus. » Il sera peut-être temps à ce moment-là de remettre l'église au milieu du village, vous savez.
Ça s'est produit déjà parce que ma fille m'avait rappelé une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que j'ai toute une famille qui... mauvaise langue, si je puis dire. J'ai une belle-fille qui raconte des tas de choses à mon frère sur mon dos, mais je ne fais plus très attention parce que ce n'est pas intéressant. Et par contre, ma fille m'avait dit « Tu sais que lors du décès de mon papa, tu as eu plus que ton frère. » Alors là, ça m'a fait très, très, très mal. C'est-à-dire que moi, j'aurais eu plus, mon frère pas du tout, le malheureux. Et c'est toujours des histoires comme ça, sans arrêt dans cette famille.
L'émission va se terminer, Michel. L'émission va se terminer. Je dis, l'émission va se terminer. Il est déjà 1h du matin. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous preniez du temps pour vous préserver des choses négatives et rester avec des gens qui vous font du bien, dans des activités qui vous font du bien. Vous commencez par vous ressourcer.
J'ai dit à ma fille, j'ai qu'une envie, c'est de partir retrouver ton papa. Hein. C'est ce que j'ai dit. Hein. Et ça, par contre, je m'en veux de lui avoir envoyé un SMS aussi lamentable.
Bon, ça peut arriver sur des moments de douleur et de faiblesse comme ça, mais vraiment...
Mais là, je n'ai plus envie de vivre tout ce que je vis. Moi, j'ai plus envie de me... Non, c'est pas que je n'ai plus envie de vivre. C'est que je n'ai plus envie de me battre comme je fais.
Michel, il faut vraiment que je vous laisse.
Eh oui, c'est pas normal.
Rappelez-moi, pardon, vous avez dit quoi ?
Si, c'est pas normal de me laisser comme ça.
Et il est 1h du matin, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Là, franchement, vous pouvez pas me reprocher ça.
Me rappeler demain.
Eh bien, écoutez, on s'est déjà parlé plusieurs fois, mais rappelez-moi demain si vous voulez qu'on se parle encore. Mais là, j'ai vraiment pas le choix. 1h du matin,
non,
ça n'est pas ma responsabilité.
Je vous remercie, Sabine. Non, je vous remercie.
Je fais de mon mieux.
J'ai dit le principal. Non, j'ai dit le principal. Je vous remercie beaucoup, Sabine. Et meilleure santé.
Merci à vous, je vous embrasse. L'émission se termine dans quelques secondes et vraiment, je n'y suis pour rien. Quand il est 1h du matin, je dois rendre l'antenne. Je vous quitte avec la phrase du jour. Au lieu de s'inquiéter de ce qui se passera demain, les hommes feraient mieux de s'interroger sur ce qu'ils font aujourd'hui. Passez une bonne nuit, je vous retrouve demain sur cette libre antenne à partir de 23h pour de nouveaux échanges et de nouvelles confidences. Prenez soin de vous, à demain.